RCF, il est 19h. RCF, près de chez vous, Fabrice Gironnet.
Et à 19h, cette semaine, sur RCF Reims-Ardennes, on poursuit avec notre playlist chrétienne. C'est parti pour 15 minutes de musique chrétienne.
RCF, la playlist chrétienne, en partenariat avec Top Music. RCF, la playlist.
Oh, mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a changer. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé. Chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance, Dieu a tout changé. Ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danse, je danserai. Dieu a tout changé, tout changé, tout changé, tout changé. Dieu a tout changé.
La playlist chrétienne, RCF.
Souviens-toi de moi. je sais j'en ai assez de congés qu'elle mêle à vous passer. Dépasser. Oh non, non, non. Je ne suis qu'un être imparfait. Mais tes plans pour moi sont si parfaits. Plus que parfait. Avec toi, tout est nouveau.
RCF, le meilleur de la musique chrétienne.
Ton espoir est sans fin. je ne suis jamais délaissée.
La playlist chrétienne d'RCF à Reims-Ardennes, on la retrouvera demain à 19h sur RCF, bien entendu. Tout de suite, nous vous proposons une chronique réalisée par les radios associatives du Grand Est en collaboration avec la région Grand Est.
La région Grand Est entend relever le défi du renouvellement des générations pour aider à l'installation de 500 agriculteurs par an avec l'appui de la PAC. Pour en parler, j'ai le plaisir de rencontrer Antoine Clavel, jeune agriculteur de Meurthe-et-Moselle à Limay. Bonjour.
Bonjour.
Quels sont les grands enjeux de demain ?
Alors, les grands enjeux de demain sur l'installation en agriculture, c'est de relever le défi du renouvellement des générations. On va avoir une grosse vague de départ à la retraite dans les 5 à 7 ans qui viennent et il faut qu'on arrive absolument à installer des agriculteurs pour avoir toujours des agriculteurs présents sur le terrain, sur des fermes à taille humaine et puis qu'ils puissent continuer finalement à alimenter localement nos concitoyens.
Qu'est-ce qui changera dans les métiers de la filière agricole et quelles sont les répercussions sur notre avenir ?
Alors les métiers de la filière agricole, ils sont amenés à évoluer, ils ont toujours évolué, avec notamment sur les attentes de la société. Je veux dire, aujourd'hui, on ne travaille plus de la même manière que nos parents, que nos grands-parents, notamment au niveau des produits phytosanitaires, au niveau du bien-être animal, c'est toutes des choses qu'on a pris en compte parce que la société a besoin de ça. On travaille beaucoup plus sur le local aussi, parce qu'il y a des demandes de cantines, de restaurations qui demandent du local et de grandes surfaces également. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience et du changement climatique, de l'écologie et de l'évolution des modes de consommation aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'installer des jeunes demain, parce que ces jeunes, ils ont conscience de tout ça. Et si on arrive à renouveler les générations, quand il y aura les départs à la retraite, on arrivera à relever ces défis.
Et c'est important à rappeler qu'il y a aussi des aides qui sont apportées à ces jeunes agriculteurs.
Tout à fait. Alors il y a des aides et de la politique agricole commune et de la région Grand Est. Alors nous, aux jeunes agriculteurs du Grand Est, on a travaillé avec la région justement sur ces programmes d'aide. Donc aujourd'hui, un jeune qui s'installe à titre principal en agriculture, il peut prétendre d'avoir entre 20 000 et 33 voire 40 000 euros d'aide selon les modèles, selon ici en zone de montagne, en élevage et selon ce qu'il fait. Donc c'est des aides qui sont très importantes. Donc la région fait un gros effort là-dessus et on en remercie. Mais c'est aussi parce que le défi est à la hauteur de cette importance. Donc effectivement, il y a des aides multiples qui existent. Il y a aussi des accompagnements qui existent, qui sont portés par les jeunes agriculteurs et les chambres d'agriculture, avec des programmes de formation, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'installent sans être issus du milieu agricole, et c'est très bien, on a besoin d'eux. Donc il y a des formations, il y a des aides financières, il y a un accompagnement avant et après l'installation qui est fait. Donc on essaie de mettre tout en œuvre, si possible, pour relever ce défi.
Nous étions avec Antoine Clavel, jeune agriculteur de Limay. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Une coproduction réalisée par les radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.
RCF, près de chez vous, Fabrice Gironnet.
Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque jeudi à 20h.
Écoutez dès aujourd'hui la radio de demain avec RCF en DAB+. Dans votre département, RCF est aussi diffusé en numérique. C'est pour vous la chance d'écouter vos programmes préférés dans une zone encore plus large et dans une qualité optimale. Avec le DAB+, RCF est encore plus proche de vous.
Et à 19h20, nous allons nous tourner vers Hubert, le jardinier, et ses bons conseils.
Bienvenue sur RCF. Alors, cette semaine, je vous ai préparé une petite liste de travaux qui devraient vous satisfaire. Alors, bien entendu, il y a des choses qui seront faites dans le potager, sur le balcon et pourquoi pas dans les massifs. Alors, on va commencer dans le potager avec les racines de chicorée vitlof. Vous savez que c'est maintenant, alors chicorée vitlof, ce sont les endives, c'est maintenant qu'on peut commencer à arracher les racines d'endives. Alors, moi, personnellement, j'attends encore. J'attends souvent le début novembre pour effectuer l'arrachage et le forçage. Alors, si vous n'avez plus de salade dans votre potager et que vous souhaitez avoir des salades assez rapidement, bon, ben, vous arrachez ses racines. Alors moi, j'ai une technique assez simple. J'utilise une vieille brouette. J'installe mes racines dans cette brouette. Je remets un petit peu de terre, du terreau par-dessus, une bâche en plastique, tout simplement pour les priver de lumière. Surtout, je les arrose bien au départ. Et cette brouette, je la mets dans un sous-sol. On pourrait les mettre dans un abri. Alors, si ce sous-sol est chaud, bien entendu, les endives vont vite repartir, les chicons vont vite redémarrer. Sinon, ça va se faire tout doucement. Et puis, si vous jugez que ça va un petit peu vite, ben, vous les remettez un petit peu plus au frais et toujours dans la pénombre. Voilà pour vos endives. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez en mettre d'autres, bien entendu. On peut faire toujours un petit roulement comme ça. En ce moment, vous savez que c'est... On va rester dans le potager. Si vous avez des topinambours, vous pouvez commencer à les arracher. Alors, n'attendez pas trop tard, n'attendez pas trop longtemps, puisque bon, les tubercules vont grossir. Mais en ce moment, ils sont plus tendres, plus agréables à la consommation. Et si vous le faites maintenant, donc on arrache au fur et à mesure, on n'arrache pas tout, puisque les racines, les rhizomes de topinambours, ne se conservent pas très bien. Il faut savoir que les topinambours, la racine ne se forme que lorsque les jours sont plus courts que les nuits, et c'est le cas maintenant. Si vous avez stocké des pommes de terre dans votre cellier ou dans votre cave ou dans dans une pièce assez fraîche, allez vérifier s'il n'y a pas des pommes de terre qui pourrissent. Vous savez que cette année, avec le mildiou, il y a quand même des pommes de terre qui ont été atteintes par le mildiou. Même si au moment où on les a entreposées, on s'en est pas aperçu, il suffit de jeter un petit œil. Puis d'abord, il y a l'odeur qui ressort. Ça sent toujours très, très mauvais. Bon, allez, on va aller dans nos jardinières. Les jardinières sur le balcon, vous êtes aperçu que bon, les géraniums sont toujours là. Il y a encore des plantes, c'est encore assez florifère. Moi, ce que je vous propose, c'est de changer un petit peu tout ça. Alors, on va remettre un petit peu de la lumière, des couleurs sur le balcon. On vide ces jardinières. Alors, personnellement, moi, je conserve mes géraniums. Les pélargoniums, pour être très exact. Je les défais, j'ai des racines, j'enlève toute la terre, je les recoupe, je mets ça de côté et je les mets côte à côte, après, dans un endroit hors gel. Voilà pour les géraniums. Alors, si on a vidé les jardinières, eh bien, on va les remplir. Alors, on va les remplir maintenant avec des plantes qui tiennent l'hiver, qui tiennent pendant l'hiver. Alors, il y a plusieurs choses. On peut déjà, si on veut de la couleur tout de suite, on peut mettre des pensées. Les pensées sont déjà en fleurs, on en trouve dans les jardineries. On peut aussi bien mettre aussi des fleurs bisannuelles, toute la gamme des fleurs bisannuelles. Ce sont des fleurs pour certaines plantes qui ne gèlent pas, hein, de toute façon, et qu'on retrouvera au printemps en fleurs, mais ça fera un petit peu de verdure. Pendant l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, et c'est pour cette raison qu'on a un peu des difficultés pour les trouver actuellement. On les trouve simplement au printemps lorsqu'elles sont en fleurs. Non, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt des plantes décoratives pour le feuillage. Et il y a une belle gamme de plantes qu'on trouve dans les jardineries. Actuellement, si vous allez rendre une petite visite dans les jardineries, on a les œuchères. Les œuchères, c'est une plante au feuillage décoratif. Alors, il y en a de toutes les couleurs. Le feuillage rouge, jaune, vert, plus ou moins zoné. Ce sont des plantes qui sont très résistantes au gel. Elles tiennent jusqu'à moins 15, voire moins 20 degrés. Alors, dans une jardinière, bien sûr, moins 15, c'est large, c'est suffisamment. Mais en pleine terre, vous les tenez jusqu'à moins 20. On paille le pied lorsqu'on les plante. C'est une plante qui n'aime pas l'humidité, trop l'humidité. Il faut un sol plutôt drainé. Alors, dans les jardinières, c'est facile. Vous utilisez un terreau universel, vous plantez vos œuchères dans j'hésitais un petit peu sur le nom parce que je voulais vous le dire, on les appelle aussi le désespoir des peintres. Le désespoir des peintres, puisque les petites fleurs qui sont insignifiantes, qui s'épanouissent au mois de juillet, au cours de l'été, sont très difficiles à reproduire. D'où le nom désespoir des peintres, avec ses fleurs en forme de clochette. Alors, les œuchères, bien qu'elles soient décoratives pour les fleurs, mais elles sont surtout décoratives, les plantes pour leur feuillage. C'est une plante qui est intéressante, qu'on peut associer, puisqu'on est dans nos jardinières, eh bien, on va y rester. Pourquoi ne pas mettre des bulbes de printemps en même temps? Au moment où vous plantez vos jardinières de chères, eh bien, installez en même temps, alors on aurait peut-être mis aussi quelques pensées hein, pour avoir de la fleur tout de suite, mais mettez des bulbes à floraison printanière. Alors les bulbes à floraison printanière, on en trouve actuellement, il y en a énormément dans les jardineries. à tous les prix, mais choisissez plutôt des gros bulbes. Alors, on a des narcisses, on a des tulipes, on a même des tulipes botaniques, hein, des petites tulipes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les jacinthes, enfin voilà. Toutes ces plantes se plantent maintenant. Il faut que l'hiver se fasse dessus pour pouvoir fleurir au printemps. J'ai oublié les crocus, j'ai oublié les muscaries aussi qu'on peut installer dans ces jardinières, pourquoi pas. Eh bien, on va retourner tout simplement dans les arbres fruitiers actuellement. Donc, j'ai dit qu'on pouvait déjà préparer les trous de plantation. Mais si vous avez un figuier à la maison et que vous voulez le bouturer, eh bien, sachez qu'il va être bientôt temps. Seulement, on va attendre que le figuier perde ses feuilles et on fera des boutures avec les tiges à crocette. Des boutures à crocette, c'est-à-dire qu'on prend un rameau de l'année et on prélève juste un tout petit rameau sur l'horizontale, on le plante en pleine terre dans un terreau et du sable et on a de nouveaux figuiers. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine et à la semaine prochaine.
Hubert le jardinier sur RCF Reims-Ardennes que l'on retrouve également le week-end. Écho du Rethelois, tout de suite, une émission animée par Maxime Bettmal.
L'écho du Rethelois vous est présenté par CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.
Bienvenue à tous et à toutes dans les Échos du Rethelois, un nouvel épisode cette semaine où on va parler d'un lieu et non pas forcément d'un événement de manière précise, le Yoak de Solérotel plus précisément avec sa gérante. Et c'est Sophie, capitaine, qui est avec nous. Bienvenue.
Enchantée, merci de m'accueillir.
Et c'est un plaisir de vous recevoir, merci de l'invitation donc pour parler de ce Yoak, ce lieu du côté de Solérotel que vous avez mis en place, que vous avez inauguré il y a quelques mois de ça. Avant de parler de tout ça, un petit mot un peu personnel parce que souvent il y a des valeurs dans ces projets qui sont représentatives des personnes. C'est une découverte parce que vous n'êtes pas forcément ardennaise de base, mais vous n'êtes pas très loin. Et comme on est sur Reims et Ardennes, bah ça marche puisque vous êtes, je crois, d'origine rémoise.
Exactement. Je suis née à Reims et j'ai eu la grande chance et le bonheur de me marier avec un Ardennais, un Rethelois, qui m'a fait découvrir la splendeur ardennaise, que ce soit du côté des paysages, que ce soit aussi du côté gastronomique. Et donc, c'est grâce à lui que tout s'est enchaîné et que tout s'est bien amené pour pouvoir créer le Yoak.
On a découvert donc l'inspiration pour le lieu, mais sur la genèse plus globale du projet, comment c'est parti, voilà, cette idée de créer ce lieu multi-conventionnel, on en a parlé dans les Ardennes.
Tout simplement, on a vécu 7 ans sur Paris avec mon mari, donc on a découvert des lieux très atypiques où on était capable de mélanger différents styles sur un même lieu, et quand on est revenu dans nos bases familiales pour vivre et créer notre famille et avoir des enfants, on s'est dit qu'il fallait absolument faire découvrir ça aux Rethelois et aux Ardennais et qu'on n'était pas obligé de monter sur Paris pour pouvoir avoir des lieux culturels et gastronomiques comme là-bas, quoi. Donc on s'est vraiment motivé à créer ce lieu pour faire partage en fait et puis un lieu de rencontre et de découverte.
Avec beaucoup de produits locaux notamment, on aura l'occasion d'y revenir. On est donc à l'idée de conception, d'imagination. Il y a beaucoup de temps j'imagine de préparation parce que on en parlera tout à l'heure du lieu, mais c'est environ 270 mètres carrés, donc ça fait quand même pas mal d'espace et ça nous amène à cette ouverture qui date d'il y a très peu de temps, je le disais, puisque c'est au mois de mai dernier, hein, c'est ça?
On a ouvert le 18 mai après 2 ans de travaux. Alors, il y a vraiment eu 6 mois très intensifs sur la fin où j'ai eu énormément de coups de main de mon beau-père, de mon mari, de mon papa, de ma belle-mère qui m'a beaucoup aidée aussi. Un gros soutien de la famille et des copains. C'est grâce à eux qu'on a pu ouvrir donc le 18 mai. Donc, ça fait 4 mois. C'est tout beau. Plein de belles choses à venir. Plein de belles choses à proposer aux Rethelois et aux Ardennais.
Ce premier bilan, du coup, après quelques mois seulement d'inauguration, est-ce que le rendez-vous a pris tout de suite, j'ai envie de dire?
Oui, tout le monde accroche. C'est un lieu qui fait parler parce que on s'y sent bien. En fait, l'objectif du lieu, c'était de se sentir comme chez mamie. Donc, avec beaucoup de choses de chiné, quand vous y rentrez, oui, il y a des vieux canapés, des vieilles tables basses. La verrerie est très importante aussi sur le côté bar pour pouvoir déguster les produits locaux à leur juste valeur avec une belle verrerie. Et c'est vrai que du coup, les gens se sentent bien et apprécient énormément le lieu. Pour l'instant, à chaque fois fois qu'on a organisé des événements, donc que ce soit les soirées jeux de société, les dégustations champagne, on a fait une conférence sur les herbes avec une herboriste. Voilà, toutes ces animations un petit peu diverses et variées ont plu et ont cartonné, je dirais même, puisque à chaque fois on était complet.
Là, cet espace, voilà, très large. Mais un petit mot, puisque vous êtes avec nous, Sophie Capitaine, pour nous parler donc du Yoke du côté de Soleil-Rotel. Je dis Yoke, certains ont peut-être un petit peu une idée du nom, et ça fait référence à quelque chose. C'est pas choisi au hasard, c'est forcément en rapport avec le patois ardennais, j'imagine.
Exactement, donc Yoke, ça veut dire quelque chose en patois ardennais. Pourquoi Yoke? Bah, parce que je ne voulais pas que les gens associent plus le lieu au bar ou à la boutique ou à l'événementiel avec la partie exposition, concert, spectacle. Je voulais vraiment que les trois soient sur la même longueur d'onde et toute leur importance, en fait. Et quoi de mieux que de mettre en avant le patois ardennais pour un lieu où on essaye justement de le mettre en avant.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la mise en avant aussi du décor, des alentours, etc. D'où ce nom. On va rentrer un petit peu dans le détail puisque ça n'est pas qu'un bar, c'est plein de choses en même temps, on l'a compris, notamment ces dégustations de bières artisanales. Il y a d'autres choses, je parlais de vin de rhubarbe, il y a plein de choses de produits, on va dire, évidemment consommés avec modération puisqu'on parle d'alcool, mais qui sont pas choisis au hasard, parce que je crois que l'un des axes principaux de ce projet, c'est la mise en lumière des produits locaux.
Exactement. Pendant ces 2 ans de travaux, il y a eu aussi 2 ans de prospection et de marché de producteurs dans les Ardennes. Depuis l'ouverture, j'ai un petit peu plus de visibilité et du coup, les producteurs viennent un peu plus à moi me faire déguster leurs produits, que ce soit en gourmandise ou en boisson alcoolisée ou non alcoolisée aussi, puisque j'ai à cœur de proposer une belle carte de sans alcool aussi. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de déguster. Et une fois que c'est validé par un panel de dégusteurs du côté de ma famille et des amis, on le référence en boutique.
Donc c'est vrai que la famille, qui en plus à l'origine du lieu, choisit aussi la carte et impliquée directement.
Alors choisit, m'aide à choisir, oui, effectivement. Le côté familial est très important chez nous, donc oui.
Voilà, donc on connaît maintenant les juges, hein, le juré pour la carte, et donc niveau dégustation, mais on parle de boissons. On précise aussi qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la même idée du côté des aliments et exactement, quelque chose d'aussi large.
Donc la partie gourmande, on est sur tout ce qui va être terrine, pâté, rillettes, confiture, miel, thé, infusion, tisane, vinaigre, huile, des houmous à tartiner, du pain d'épices, voilà. Je pense que le meilleur moyen de toute façon de voir et de pouvoir déguster tous ces produits, c'est de se rendre chez Yoke. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir créer une boutique, que ce soit pour faire des beaux coffrets quand on est invité ou quand on a un anniversaire, mais aussi de pouvoir intégrer dans la vie de tous les jours ces produits, notre consommation journalière. Parce que au final, on a quand même des artisans qui travaillent très bien et qui ont des très bons produits et qu'il faut réussir à intégrer dans cette routine du quotidien, dans nos courses, dans nos placards, dans nos frigos, parce qu'ils sont là pour nous et il faut leur rendre.
Ces artisans, est-ce que justement ça a été facile, entre guillemets, de les faire adhérer au projet, puisqu'on l'a dit, c'est seulement les premiers mois. En plus, que je crois que vous avez quelques exclusivités, donc c'est-à-dire que le bouche-à-oreille a bien fonctionné et que ça a pris tout de suite aussi avec eux, au-delà des gens de manière globale qui viennent au Yoke.
Alors avant l'ouverture, un peu compliqué, parce que je pense que les artisans avaient beaucoup de mal à visualiser le lieu, le concept. Maintenant qu'il est ouvert et maintenant qu'ils viennent à ma rencontre, qu'ils découvrent le lieu, qu'ils découvrent les photos sur les réseaux sociaux, ils se rendent compte qu'il y a un énorme potentiel dans ce lieu, que je suis vraiment moteur à vouloir dynamiser Rotel et Soleil-Rotel, et que j'ai vraiment à cœur de mettre en avant ces produits qui sont très bons, donc un peu plus facile maintenant.
Le bouche-à-oreille a fonctionné. On va dire ça comme ça donc pour cette partie-là, mais une fois qu'on vient, qu'on déguste, qu'on découvre des bonnes choses, des nouvelles choses, il n'y a pas que ça à faire, il y a aussi d'autres choses à voir, et c'est la deuxième partie, on va dire, c'est un peu plus événementiel, avec plein de choses. Quand on l'a dit, 270 mètres carrés pour l'espace du Yoke, ça peut aider pour faire plein de choses. Il y a de l'espace, que ce soit des concerts ou des expositions. Voilà, c'est un vrai lieu multifonction, on l'a dit, mais surtout multiculturel.
Exactement. Donc en fait, l'objectif du lieu, c'est de proposer une exposition par mois. Alors, en chaque début de mois, donc on a le vernissage avec l'artiste, pouvoir discuter avec lui et du coup découvrir un peu son concept, sa méthodologie, etc. On essaye de proposer un concert ou un spectacle par mois. Donc là, on est en pourparlers pour peut-être en faire un sur la fin du mois. Donc l'objectif des concerts, c'est pareil, on est vraiment sur de la découverte musicale. Donc on est sur des styles un peu particuliers. Normalement, début novembre, on aura de l'afro jazz. Là, sur la fin du mois d'octobre, en pourparlers, ça sera sûrement du tzigane. Voilà, on a déjà fait un concert auparavant avec un groupe de djembé de l'école de musique de BAM. Et puis voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir ces musiciens et de faire passer un chapeau, parce que pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu compliqué à l'ouverture de pouvoir payer des cachets. Donc l'objectif du lieu, c'est aussi de montrer aux artistes que les Rotellois peuvent évaluer aussi ce qu'ils valent et du coup leur proposer un beau chapeau. Et puis donc on a une expo par mois, un concert par mois, et puis plein de petits ateliers. Voilà, au mois d'octobre, on va avoir des ateliers pour les enfants, parents-enfants, des ateliers pochoirs, gesmonite, on va avoir des soirées dégustation, on va avoir sûrement une pièce de théâtre aussi au mois de novembre, un conteur. Twitter au mois de décembre. Voilà, donc toutes ces dates, vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et puis, elles sont présentes aussi donc sur le lieu, sur un gros panneau d'affichage. Pour les personnes qui le désirent, j'envoie une newsletter une fois par mois avec l'ensemble des activités qu'on retrouve dans le mois suivant. Voilà, j'essaie d'être un peu sur tous les réseaux. Normalement, pareil, le journal de l'Union et de l'Ardennais me font passer souvent un petit article pour diffuser un petit peu mes dates et mes expositions. Voilà, un lieu qui est voué à bouger et à être dans la découverte culturelle.
Un lieu donc, on l'a dit, qui inspire aussi au calme. Alors, on parlait des mamies, mais c'est un petit peu ça l'idée d'être dans le confort. Je suppose que ça veut dire aussi que c'est ouvert à tout public, parce qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure des produits, ça faisait pas très enfant, je vous l'accorde, mais voilà, il y a aussi ce côté de réunir toute la famille au Yoke.
C'est ça, comme vous l'avez compris au début de l'interview, on a le côté familial qui est très à cœur pour nous, donc on a créé une zone aussi pour les enfants, avec à disposition des livres, des coloriages, des jeux, et c'est vrai que du coup on a énormément de clients qui viennent en famille pour partager un moment convivial tous ensemble et de détente, dans un lieu où il y a de l'espace, où les enfants peuvent courir et peuvent utiliser le jardin à disposition pour se lâcher. On était vraiment sur cette envie de se retrouver, que ce soit entre copains ou que ce soit en famille.
Dans un lieu connu de beaucoup de monde, on l'a pas précisé évidemment où vous retrouvez, c'est au 7 avenue de Bourgoin à Soler-Hôtel. Et j'ai dit c'est un lieu parce qu'il y avait déjà des choses préalables avant le Yoke dans cette zone.
Exactement, c'est un lieu très historique sur Soler-Hôtel puisque c'était anciennement les locaux chérés. Énormément, je dirais peut-être même la globalité des agriculteurs ardennais connaissent ce lieu puisque c'était le magasin Chéret avec leur zone de stockage, leur zone de réparation, et énormément de personnes qui viennent ici, on se remémore soit pendant leur enfance être venu avec papy ou papa chercher des pièces, ou soit être venu tout simplement travailler sur le lieu. Donc c'est rempli d'émotions quand ces personnes viennent.
Voilà, donc émotion au sens large, et amusement pour vous si vous allez donc au Yoke. On rappelle pour plus donc d'informations, beaucoup de choses, notamment aussi dans le programme sur la fin du mois d'octobre. Vous avez parlé de la dégustation, du jeu de société, l'atelier pochoir, et j'en oublie. Justement, si j'en oublie, bah ça tombe bien, vous pourrez avoir toutes les informations sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., comme vous l'avez dit, et également peut-être un numéro aussi où les gens peuvent directement contacter si jamais ils ont des plus d'informations ou des dates qu'ils veulent suivre dans les prochaines semaines. On peut peut-être donner le numéro.
Oui, pas de souci. Donc le 06 76 78 50 95, où du coup on pourra trouver l'ensemble des informations puisque c'est moi qui décrocherai, Sophie. Puis voilà, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux si je ne décroche pas.
On rappelle donc 06 76 78 50 95. Voilà, comme ça vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez reculer de quelques secondes si vous nous écoutez en podcast et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup Sophie Capitaine d'être venue à notre micro. On vous souhaite tout le bonheur. On dit pas le mot qui commence par M, mais on le pense pour le Yoke, qui donc pour la suite. Le lancement était bien visiblement réalisé, en tout cas a donné des résultats. Maintenant, il faut poursuivre. On vous souhaite tout le meilleur. Merci d'être venue à notre micro.
Merci à vous de m'avoir accueilli et au plaisir de vous rencontrer directement chez Yoke.
Le rendez-vous est donné. On ne manquera pas donc d'aller visiter le Yoke, 7 avenue de Bourgoin à Soler-Hôtel. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine en FM pour d'autres rencontres. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, on est disponible tout le temps sur internet, sur le site notamment de rcf.fr ou l'application. Y aller, podcast. Excellente journée, excellente suite de continuation. Et puis à bientôt.
L'écho du Rethelois, présenté par CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.
Écho du Rethelois, présenté par Maxime Bettmal sur RCF Reims-Ardennes. Ce week-end, vous pourrez vous rendre à l'abbaye à Digny, c'est dans la Marne, à la limite de l'Aisne, ce samedi et ce dimanche, puisqu'est organisée une brocante à l'abbaye Digny, des petits meubles de qualité, des objets, des tableaux, de la vaisselle, de très beaux tissus également vous attendent sur place. Le magasin monastique sera ouvert et puis ce sera l'occasion de découvrir l'abbaye et ses alentours dans cette très belle campagne, l'abbaye Digny, donc qui vous donne rendez-vous ce samedi et ce dimanche pour leur brocante. C'est ouvert de 9h30 à 17h. Et sur RCF Reims-Ardennes, tout de suite, Thierry Livoire et Presto Livre.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Presto Livre, où il sera question cette semaine de trois parcours de foi. Tout d'abord, celui de Jon Foss, le prix Nobel de littérature 2023, puis celui de Maria Montessori, la grande pédagogue, et enfin celui d'Anne-Claire Cassan, une jeune mère de famille frappée par la maladie. Le mystère de la foi, tel est le titre de l'ouvrage regroupant les entretiens que Jon Foss a accordé au journaliste et théologien Eskel Gjedal. Il paraît aux éditions Artege. Jon Foss est aujourd'hui, avec Ibsen, le dramaturge norvégien le plus joué à travers le monde. Ses œuvres sont traduites dans plus de 40 langues. L'art de Jon Foss, par une écriture minimale et une intrigue simple, inspirée de la vie quotidienne, veut se faire l'écho des interrogations existentielles de ses personnages. Jon Foss lui-même a parcouru un long chemin spirituel. D'abord fasciné par le gnosticisme et le mysticisme chrétien, puis le mouvement quaker, il est désormais catholique. En compagnie d'Eskel Gjedal, Jon Foss raconte son itinéraire en toute transparence et humilité. Ensemble, ils évoquent la foi en Dieu du dramaturge, sa conception de l'écriture, son alcoolisme, sa maladie et ses rapports avec l'Église. Maria Montessori, une vie au service de l'enfant, est le titre de l'ouvrage que Martine Gilzoul et Charlotte Poussin, toutes deux éducatrices Montessori, font paraître aux éditions Des Clés de Brouwer. Maria Montessori, née en 1870, morte en 1952, une des premières femmes médecins d'Italie, est internationalement célèbre pour sa pédagogie et les écoles qui portent son nom. Dans ce livre, elle apparaît aussi et avant tout comme une femme de foi. Sa vie au parcours atypique, presque romanesque, est guidée par un fil d'Ariane, l'éducation à la paix et à la liberté, sous le regard d'un Dieu qui veut précisément que les hommes vivent en paix et dans la liberté. Avec Anne-Claire Cassan, c'est le parcours de foi d'une jeune femme frappée par la maladie que nous découvrons. Son récit s'intitule « Je me déploierai dans ta faiblesse » et paraît aux éditions Artege. Très jeune, Anne-Claire Cassan connaît la souffrance, celle du deuil précoce de sa mère et de son père, puis celle de la maladie dégénérative qui la touche au sortir de l'adolescence. Et pourtant, elle rayonne et ses mots nous portent. Rendue forte par sa foi en Jésus et en Marie, et nourrie de la parole de Dieu, elle livre, à travers les méandres de son existence, la puissance des consentements de son âme et la découverte de la vraie joie qui l'habite. De l'âge de 18 ans à aujourd'hui, alors qu'elle est mère de famille, elle retrace avec beaucoup de transparence et de simplicité ce chemin qui l'a conduite à se relever et à avancer. Je vous rappelle les références des trois ouvrages présentés aujourd'hui. Le mystère de la foi, entretien de Jon Foss avec Eskel Gjedal aux éditions Artege. Maria Montessori, une vie au service de l'enfant, par Martine Gilzoul et Charlotte Poussin aux éditions Des Clés de Brouwer, et « Je me déploierai dans ta faiblesse » par Anne-Claire Cassan aux éditions Artege. Bonne lecture.
RCF.
Je devais partir pour de vrai. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins, tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. quand sur la couche pleure au ciné. À qui confierai-je mes regrets et ce que je ressens? Ma vie, je la voyais autrement. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera en moi. Tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Il y aura toujours quelque part un vide qui se remplit pas en moi. Je passerai mon temps à me dire, tu vois, ça aurait dû être toi. Il y aura toujours une nuit infinie qui me suivra partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous.
Ce n'est pas la chanson la plus connue d'Axel Red, mais ça fait du bien, des fois, d'écouter justement des chansons qui sont moins connues. Voici Bulles étudiantes cette semaine, c'est Nina Aldea qui présente cette émission.
Bonjour, c'est Mac Lesguy. J'ai décidé de m'associer à une publicité pour les audioprothésistes Entendre, car la perte d'audition est un handicap qui touche des millions d'entre nous. J'ai interviewé les audioprothésistes Entendre. Ce sont des experts de la santé auditive. À l'écoute de leurs patients, ils sont attentionnés et ils leur conseillent la solution auditive la plus adaptée.
Entendre, vous reliez à tout ce qui vous entoure. Dispositif médical, consultez un spécialiste. Contactez-nous au 0800 12 12 56, service et appel gratuit, ou sur entendre.com.
Bulles étudiantes vous est présentée en partenariat avec les audioprothésistes Entendre à Charleville-Mézières, Sedan et Besançon.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nina Aldea et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission de Bulles étudiantes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mathilde.
Bonjour.
Iris.
Bonjour.
Et de nouveaux membres de l'association, Anna.
Salut.
Et Dibor.
Bonjour.
Avec qui nous allons aborder aujourd'hui un sujet captivant et attrayant, il s'agit du cinéma français. Le cinéma français occupe une place privilégiée dans l'histoire du 7e art. À l'échelle mondiale, son succès est inévitable. En 2023, sortait Anatomie d'une chute, réalisé par la célèbre Justine Triet, et à travers le monde, ce film cumule plus de 3,5 millions d'entrées, soit le double de sa performance en France. Et il est devenu la production française, hors film d'animation, la plus vue en dehors de nos frontières depuis la crise sanitaire. Pensez-vous de ce fait que le cinéma français bénéficie d'une bonne image à l'international, de la même façon que les productions hollywoodiennes, très en vue en France ? Mathilde,
Personnellement, je pense que le cinéma français bénéficie d'une image, bah, du coup, à la française, justement, qui met le ton sur les belles choses, les beaux lieux, les bons acteurs, les beaux costumes également. Quand je pense à l'image internationale que peut renvoyer le cinéma français, moi, j'ai tout de suite en tête les films cultes comme La Haine ou Intouchable, qui ont justement la caractéristique d'avoir été merveilleusement réalisés. Et je pense que, honnêtement, grâce à ça, le cinéma français a une bonne réputation à l'échelle internationale.
Et toi, Iris ?
Je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. Je pense aussi que c'est important de ne pas trop comparer le cinéma français au cinéma hollywoodien. C'est pas les mêmes cinémas et c'est ça qui fait du cinéma français quelque chose de si particulier et de si beau. J'avais un petit exemple aussi que j'espère sera peut-être le podium des Français les plus appréciés mondialement dans le futur. C'est Ni chien ni maître. Je l'ai pas encore vu, mais je sais que ça va être un film extraordinaire qu'on devrait tous aller voir. Voilà.
Et toi, Dibor ?
Je pense aussi. Le style du cinéma français est assez unique et assez différent des productions hollywoodiennes, justement, puisqu'on retrouve une alternance entre des grosses productions et des petites, avec des films d'auteur notamment. Et ce style très particulier est pour moi un élément qui attire le public, au vu notamment du rayonnement de la culture française à l'international.
Et Anna ?
Je rejoins aussi plutôt Dibor. Je trouve que le cinéma français, il a une sensibilité que les grosses productions hollywoodiennes vont pas forcément réussir à mettre en avant. Et je trouve que c'est bien que, voilà, à l'international, il y ait des films comme ça plus sensibles, plus fins, qui contrastent du coup avec les blockbusters qu'on retrouve partout.
Le cinéma français occupe donc une place prépondérante dans le paysage artistique mondial, se distinguant par sa diversité, son héritage riche et son impact profond sur l'industrie cinématographique internationale. Et selon vous, quels facteurs sont impliqués dans la popularité du cinéma français à l'échelle mondiale ? Dibor ?
Pour moi, il y a notamment des acteurs comme par exemple Pierre Niney ou alors Omar Sy, qui sont particulièrement aimés des foules étrangères et qui attirent beaucoup de monde. Mais la France est aussi connue pour son originalité, avec des films d'auteurs qui attirent plutôt les connaisseurs, et aussi un humour très français avec une French touch.
Et Mathilde ?
Moi, je pense que je rejoins Dibor, en fait, quand je pense à la popularité du cinéma français. Je pense qu'elle se doit d'abord et avant tout grâce à des acteurs qui ont marqué véritablement le milieu. Je pense notamment à des acteurs plus anciens comme Jean Reno, Louis de Funès. Il y a aussi Marion Cotillard, Jean Dujardin, Sophie Marceau, Vincent Cassel. Mais je pense aussi que la place du réalisateur dans la notoriété du film, elle est cruciale. Du coup, je reprends encore mon exemple de La Haine, qui, selon moi, a été remarquablement bien réalisé. Et encore une fois, je pense que les acteurs, ainsi que la bonne réalisation d'un film, ça peut tout donner au niveau de la popularité du cinéma.
Anna, toi, tu en penses quoi ?
Moi, je trouve aussi que c'est l'originalité des scénarios, oui, les acteurs, un peu cet humour. Il y a beaucoup de films où il y a un peu un mélange d'humour et en même temps, c'est très touchant. Enfin, c'est vraiment la France qui arrive à mettre ça en avant dans ses films. Et c'est ça qui fait l'originalité.
J'ai rien de spécial à rajouter, juste tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, particulièrement le point de Anna de lier cet humour à une certaine sensibilité, ce que Mathilde, tu as dit déjà dans la première question. Je trouve ça vraiment intéressant, comme tu l'as déjà dit aussi Anna, cette différence entre le cinéma hollywoodien et français, avec cette sensibilité française qui est pas forcément trouvable dans ces films-là hollywoodiens.
Selon les estimations du CNC, la fréquentation cinématographique atteint 18,71 millions d'entrées au mois de juillet 2024, soit une hausse de 2,2% par rapport à juillet 2023. Comment expliquer la hausse des spectateurs ? Mathilde, est-ce que tu peux commencer ?
Selon moi, c'est d'abord et grâce aux grosses affiches de l'année 2024 qui sont sorties en France. Donc, je vais prendre l'exemple phare de cette année, donc avec la sortie du Comte de Monte Cristo, qui a donc complètement retourné le box-office français avec notamment plus de 8 millions d'entrées en salle à l'international. Et pour avoir été voir le film, justement, je pense qu'on doit clairement cette hausse de spectateurs à ce film, d'abord et surtout grâce à son casting exceptionnel. À titre personnel, étant passionné de théâtre et d'art dramatique, c'était absolument génial pour moi de voir réunir Pierre Niney, Laurent Lafitte et Patrick Mille. Je pense que quand on réunit trois acteurs issus de la comédie française, on peut réussir à expliquer la hausse du nombre de spectateurs au cinéma en 2024.
Et toi, Dibor ?
Je suis d'accord avec Mathilde, je pense que c'est surtout grâce à la sortie du Comte de Monte Cristo, vu que c'est un classique mais modernisé et qu'en plus en tête d'affiche on a quand même Pierre Niney accompagné d'autres acteurs, ça a réuni plusieurs générations et je pense que c'est un gros facteur pour faire hausser les entrées.
Et toi, Iris ?
J'ai pas vu le Comte de Monte Cristo, donc je vais pas pouvoir vous rejoindre sur quoi que ce soit là-dessus. Bien sûr que c'est grâce à des films qui vont plaire, et ils ont aussi une très belle mise en avant cette année j'écoute les films français plutôt que certains films hollywoodiens. Là, en tête, j'en ai pas particulièrement qui me viennent. Je sais qu'il y a Joker qui vient de sortir, donc il va peut-être ramener certains films hollywoodiens au devant de la scène. Mais les films français, j'ai comme l'impression que les gens vont peut-être plus les voir parce qu'ils ont moins de chances de se retrouver rapidement sur des sites de streaming comme Netflix ou Amazon, sur lequel on peut retrouver des films hollywoodiens au bout de, je sais pas, 2 mois de sortie, 3 mois de sortie. On se dit peut-être, quitte à voir ce film-là, peut-être que j'ai pas forcément envie de payer, et ça perd en fait de la beauté du cinéma.
Et toi, Anna ?
Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'ont dit les filles. Je trouve aussi que, par exemple, Le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment des films plus authentiques que, par exemple, ce que vont sortir les grosses productions hollywoodiennes, où à chaque fois, je me répète, mais ça va être un peu toujours la même chose, le même scénario. Alors que là, je trouve que le cinéma français, comme Anatomie d'une chute, c'est des scénarios qui sont, oui, ont été déjà vus, mais ça reste quand même assez authentique par rapport à tout ce qui sort aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, c'est pour ça, je trouve que, encore une fois, c'est hyper authentique.
Petit rappel, nous sommes sur Bulle étudiante et je suis accompagnée de Mathilde, Iris, Dibor et Anna. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du 7e art. Le cinéma français qui a grandement puisé dans le patrimoine français. De nombreux lieux sont et seront marqués à jamais par la magie du grand écran. Sous le feu des projecteurs, notre patrimoine est mis à l'honneur. On pense naturellement au film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore Les Demoiselles de Rochefort. Et vous, si vous ne deviez mentionner qu'un film réalisé au sein d'un décor français qui vous a marqué, lequel serait-il ? Est-ce que Dibor, tu peux commencer ?
Oui, donc moi je pense que je parlerai du film Intouchable. C'est une de mes productions préférées, il est à la fois drôle, touchant et il a même eu un tel impact qu'il a été adapté notamment aux États-Unis, il me semble.
Et toi, Anna ?
Alors moi aussi, j'aurais dit Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais pour me démarquer, j'aurais tendance à dire Les petits mouchoirs. Ça se passe au Cap Ferret, et je trouve que même si j'ai pas forcément adoré le scénario du film, les plans sont magnifiques et j'adore.
Moi, je vais remonter un peu dans le temps. C'était à l'époque où personne ici n'était né. C'était en 1986. Moi, mon film, c'est Jean de Florette, donc avec Yves Montand et Daniel Auteuil. Une grande partie des plans ont été tournés dans les collines d'un petit village des Bouches-du-Rhône, et quand mon père m'a fait regarder ce film quand j'étais plus petite, je suis tombée amoureuse en fait de la campagne provençale des années 80.
Et pour finir, je rejoins tout à fait Mathilde. Moi, j'allais parler de La gloire de mon père.
Ah bah oui.
C'est pareil, c'est des films que j'ai vus quand j'étais petite. Et oui, cette campagne provençale-là, c'est celle que je retrouvais aussi tous les étés quand je partais en vacances dans le sud. Et c'est vrai que plus que l'histoire du film en elle-même, ces visuels-là, que ce soit autour des sons aussi, c'est ça aussi qui est beau avec le cinéma français.
Il est vrai que l'industrie cinématographique française ne manque pas de talent, donc voici une question un peu plus divertissante que les précédentes. Imaginez-vous réalisatrice, dites-moi 2 acteurs ou actrices que vous choisirez pour les rôles principaux de votre film. Anna, est-ce que tu peux commencer ?
Alors moi, en tant que rôle masculin, je trouve que Louis Garrel, il est, à l'écran comme dans la vie de tous les jours, il est très beau, beaucoup de charisme, donc je choisirais lui. Et en tant que femme, je sais pas du tout prononcer son nom de famille, mais ce serait Marine Vacht. Elle a joué dans Jeune et Jolie et elle est magnifique.
Et toi, Dibor ?
Alors je pense qu'en actrice, j'aurais pris Sophie Marceau parce que c'est une actrice qui a marqué mon enfance et qu'elle est quand même très connue. En acteur masculin, j'aurais pris Omar Sy parce que je le trouve très pétillant, très joyeux et il rajoute tout de suite quelque chose au film.
Et Iris ?
J'aurais pris Omar Sy aussi parce que il a marqué il a marqué mon enfance, que ce soit avec Intouchable que tu as mentionné précédemment. Et il a fait cette série il y a pas longtemps, Arsène Lupin, qui aussi je pense qu'on a toutes regardé, qui était vraiment bien. Et au niveau de l'actrice féminine, je choisirais Adèle Haenel parce que elle a joué dans un de mes films français préférés, qui est Portrait de la jeune fille en feu, que je vous conseille vraiment de regarder, il est incroyable et elle est très très belle.
Et pour finir, Mathilde ?
Alors moi, je ferai un bond dans le temps. Encore une fois, je prendrai Louis de Funès, qui est vraiment mon acteur préféré. Et encore une fois, un autre bond dans le temps, j'y ajouterai Marion Cotillard, qui pour moi est honnêtement l'actrice française la plus talentueuse de la génération.
C'est déjà la fin de cette émission. L'équipe Bulle étudiante adresse une sincère pensée pour l'acteur, scénariste et réalisateur Michel Blanc, qui nous a quittés le 3 octobre dernier. Merci à toutes pour vos réponses très enrichissantes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bulle étudiante. À bientôt !
À bientôt !
À bientôt.
Bonjour, c'est Mac Lesguy. J'ai décidé de m'associer à une publicité pour les audioprothésistes Entendre, car la perte d'audition est un handicap qui touche des millions d'entre nous. J'ai interviewé les audioprothésistes Entendre. Ce sont des experts de la santé auditive. À l'écoute de leurs patients, ils sont attentionnés et ils leur conseillent la solution auditive la plus adaptée.
Entendre, vous relier à tout ce qui vous entoure. Dispositif médical, consultez un spécialiste. Contactez-nous au 0800 12 12 56, service et appel gratuit, ou sur entendre.com.
Bulles étudiantes vous a été présenté en partenariat avec les audioprothésistes Entendre à Charleville-Mézières, Sedan et Besançon.
Bulles étudiantes présentées ce soir par Nina Aldea, que l'on retrouve également dans sa chronique à la pointe de la mode. Très belle soirée sur RCF. Écran étoile tout de suite.